Il n'y a pas de meilleure leçon d'histoire que l'émoi de toute la France en apprenant que la duchesse de Montpensier, petite fille d'Henri IV, épousait le comte de Lauzun. Simple gentilhomme qualifié. Un mariage de ce genre, à moins qu'il ne s'agisse de l'héritier du trône, n'est aujourd'hui qu'une simple nouvelle mondaine, même dans les pays restés de sentiments monarchiques. Au XVIIe siècle, c'était une telle atteinte à la hiérarchie sociale sur laquelle tout reposait que mademoiselle parut avoir manqué gravement à son devoir de princesse, en brouillant ainsi les rangs. Louis XIV, à son devoir de roi, en ne s'y opposant point. On leur en voulut, d'autant plus que les mœurs, encouragées par d'illustres exemples, offraient aux amants séparés par la naissance un moyen facile de concilier leur bonheur privé avec l'ordre public. Les mariages de conscience avaient été inventés pour ces sortes de cas. Pourquoi ne pas s'y tenir ? Paris cherchait la réponse, et il avait pris cet air bourdonnant et affairé que n'oublièrent jamais ceux qui en avaient été les témoins et qui faisaient écrire à Madame de Sévigné au bout de 10 ans, lorsque l'affaire des poisons éclata. Il y a 2 jours que l'on est assez comme le jour de mademoiselle et de monsieur de Lauzun. On est dans une agitation. On envoie aux nouvelles, on va dans les maisons pour en apprendre. On est curieux. Les princes et princesses du sang se jugèrent outragés et se rebellèrent. Événement si en dehors de toutes les prévisions, avec leurs habitudes de soumission passive, que Louis XIV ne laissa pas d'en être ému. La timide Marie-Thérèse donna l'exemple. Mademoiselle était allée lui annoncer son mariage. « Je désapprouve fort cela, ma cousine !» fit la reine d'un ton fort aigre, et le roi ne l'approuvera jamais.
Il l'approuve, madame, et c'est chose résolue. Vous feriez bien mieux de ne vous marier jamais et de garder votre bien pour mon fils d'Anjou.
La colère lui donna le courage de parler au roi, qui se fâcha, doux saine, larmes, nuit de désespoir, mais refus de céder. Et finalement, déclaration publique, qu'elle ne signerait pas au contrat. Monsieur criait du haut de sa tête. Il chanta pouille. « Oh,
député de la noblesse de France !»
traita mademoiselle, en présence du roi, de
« sans cœur »
et de personne
à mettre aux petites maisons,
et déclara aussi qu'il ne signerait pas au contrat. Le plus grave fut qu'il accusa sa cousine de répéter à tout venant que son mariage lui avait été conseillé par le roi. Mademoiselle eut beau jurer qu'elle n'avait jamais rien dit de pareil. Le mot fit une grande impression sur Louis XIV. Il lui donna son premier regret. Le prince de Condé, tant accusé d'être devenu sur le tard un plat courtisan, fit respectueusement au roi des remontrances très fermes. Il n'eut pas, jusqu'à la vieille madame, si profondément oubliée dans son coin du Luxembourg, qui se réveilla de son apathie pour signer une lettre au roi, écrite en son nom par Monsieur le Pelletier, président aux enquêtes. En dehors de la famille royale, Louis XIV sentait le blâme monter vers lui de toutes les classes de la population. La noblesse se refusait généralement à ratifier le mandat que les
députés
s'étaient donné en son nom. Sans doute, l'honneur de ce mariage était grand et très inattendu de la part d'un monarque qui avait travaillé aussi résolument à rogner la puissance de l'aristocratie. Mais la plupart des gens de qualité en étaient moins touchés que de l'espèce d'abaissement infligé à la royauté et à travers elle à l'idée monarchique par un acte qui, pour cette même raison, soulevait une réprobation universelle dans le reste de la nation. Le monde des parlementaires et de la haute bourgeoisie était outré. On y était convaincu que l'affaire n'avait pu être